France Inter.
Ce jour-là, je me suis dit, je me vengerai. Ça, j'ai jamais oublié.
L'étoile jaune qu'arbore aujourd'hui les enfants d'Israël n'est ni une mesure de vexation, ni une mesure d'humiliation.
Et je me suis vengé.
La question ne se poserait pas si, par exemple, les Juifs avaient la peau bleue. Mais ce n'est pas le cas. Il faut donc qu'on puisse les reconnaître.
Moi, je croyais qu'on allait faire sauter un train, hein, je sais, j'avais aucune idée de ce qu'on allait faire, hein, aucune. C'est rien, c'est énorme.
Le moment de bascule, hein, pendant l'occupation, ça a été le moment où vous avez commencé à devoir porter l'étoile jaune.
Oui, mais ça, je l'ai porté, je sais pas, 8 jours, 10 jours. Ben oui, parce que je suis rentré en résistance à 16 ans. Non, puis même l'étoile... Je la cachais toujours. Je chantais avec mon étoile.
Pourtant, les cafés, les restaurants étaient interdits aux Juifs à ce moment-là.
Alors, j'allais au café Pigalle. Il y avait un saxophoniste qui s'appelait Robert Mavounzi. Et mes copains rentraient avec moi. Moi, je cachais mon étoile. Les autres n'étaient pas juifs. Alors, je chantais avec lui. Il m'a embauché pour que je vienne tous les samedis et tous les dimanches. Je venais chanter. Je chantais magnifiquement bien. Quand je monte chez toi, j'ai le cœur qui bat.
Et alors vous êtes rentré dans la résistance, vous aviez même pas encore 16 ans.
Voilà.
Qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur? Qu'est-ce qui a fait que vous êtes rentré dans la résistance?
Ma tante, qui était... la femme du frère de mon père qui était communiste, elle l'était aussi. Elle m'a dit, Robert, j'ai des copains qui sont dans la résistance, est-ce que tu veux participer? Il faut relever la tête. Enfin, elle m'a fait un petit discours comme elle savait le faire. Et puis, j'ai dit oui. C'était le 17 juillet 1942. Ça peut pas... Le 16 juillet 1942... Je peux pas oublier.
Paris, 16 juillet 1942. La plus grande opération de police que Paris ait connue depuis l'arrestation des Templiers et la Saint-Barthélemy.
Le 16 juillet 1942, ça, c'était l'horreur. Dans notre rue, c'était la catastrophe.
Au petit jour, Paris est investi par la police parisienne, la police de Vichy, qui s'est chargée des préparatifs et de l'exécution. 9000 hommes.
J'avais une copine qui avait un Jules... qui était au commissariat de police, qui lui avait dit à des copains, ceux qui sont juifs, qui ne restent pas chez eux cette nuit. Vous savez, tout le monde savait. On ne savait pas qui allait être pris, mais on savait qu'il y avait une rafle qui était prévue. Et ça a été une journée épouvantable.
L'opération a été baptisée cyniquement « Vent printanier ». C'est la première étape de la solution finale, celle de l'anéantissement des Juifs européens.
Une copine à 5h du matin, qui est dans son grenier, qui hurle par la fenêtre, « Sauvez-vous, les Allemands arrivent, on vient nous... »
Les Allemands?
Pas les Allemands, les flics. Les flics, il n'y avait pas d'Allemands, hein. Que des flics. Ils étaient au coin de la rue, les flics. Hein. À 70 mètres de la boutique, il y avait le commissariat. Tous, ils venaient acheter chez mes parents, bien sûr. Mon père s'est caché. Il avait prévu le jour d'avant, il avait mis une échelle qui donnait dans les écuries. Il s'était réfugié dans la paille. Jusqu'à l'après-midi, j'ai été le chercher. Quand j'ai vu qu'on ne touchait pas aux Français, mes parents étaient Français. Mais à partir du moment où on n'était pas Français, la maison en face, au 13 rue Bellot, en face du 14, c'était une maison où il n'y avait que des Juifs. De toutes les nationalités. Tous ont été déportés.
On entend les bruits des pas des policiers aux portes, des coups de poing caractéristiques. Ceux qui, par malheur, ouvrirent, virent immédiatement devant eux des Français. Aucune considération n'arrêta les policiers. Tous ceux dont les noms figuraient sur la liste furent impitoyablement enlevés.
Les jeunes de mon âge, il y en a qui étaient Français, qui ont laissé leurs parents partir et qui sont restés. Parce qu'ils étaient Français, ils avaient 16 ans, 17 ans. Mais les mômes, ils voulaient pas quitter leurs parents, ils partaient avec. C'était Drancy d'abord, et puis Auschwitz, et puis Buchenwald et toute la suite. Vous savez, j'ai le meilleur exemple, c'est mon cousin Robert Clary, qui avait mon âge, il avait 16 ans, il tenait la jupe de sa mère, il est parti avec... Il aurait pu rester, il était français. Il est parti avec sa mère, avec son père, avec ses soeurs, avec ses frères, avec mon grand-père, une partie énorme de la famille. Et ils sont revenus à 4 sur 150. Hein. Non, mais ça, le 16 juillet 42, c'est un souvenir, mais c'est... L'image, elle m'a jamais quitté. Hein. Je revois tous ces mômes de tout le quartier qui passaient devant la porte de chez mes parents qui sont faits avec du lait, avec des gâteaux distribués aux enfants qui partaient avec leurs parents, des bébés, des mômes, les clients de mes parents, tout ce qui passait devant la porte, que mes parents allaient leur dire au revoir. Et il y avait des gens qui applaudissaient dans la rue. Oui, oui, des Polonais, c'est des antisémites. Incroyable, cette scène, elle est marquée pour la vie. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de déportés.
30 000 juifs furent parqués dans le vélodrome d'hiver et de là dirigés sur les camps de la mort, d'où une grande partie d'entre eux ne devait plus jamais revenir.
Puis, vous savez, j'étais à l'école, hein. On s'est retrouvés le matin avec des copains qui n'avaient plus de parents, et qui étaient là et qui étaient sans parents, tout seuls. Beaucoup étaient à la résistance, bien sûr.
Donc vous êtes rentré dans la résistance au lendemain de la rafle du Veldiv. Oui. Ça a été le déclic, c'est votre tante qui est venue vous voir au lendemain de cette rafle.
Le 17, d'ailleurs avant que ma tante ne me parle, le matin du 17, j'ai rencontré deux de mes copains, Maurice Gilbert et Marcel Garmanski. C'était des copains d'école. Ils étaient membres des jeunesses communistes françaises. Les parents venaient d'être pris dans la rafle du 16 juillet. Leur porte avait été scellée. Et mon copain Maurice me dit, écoute, tu peux nous aider. Je vais louer une voiture à bras. On va défoncer la porte chez mes parents. J'ai un oncle, Faubourg Saint-Antoine, qui vend des meubles. On va lui déposer les meubles de mes parents pour, quand ils vont venir, qu'on retrouve quelque chose. Est-ce que tu veux nous aider? J'ai dit, oui, il n'y a pas de problème. Et on est partis tous les trois avec notre voiture à bras. Place de la Bastille, Faubourg Saint-Antoine. C'était une première action de résistance, alors que je n'étais pas encore dans la résistance. Et là, le lendemain, je commençais mes actions. J'avais un rendez-vous tout de suite, devant le cinéma Pacifique, près de la gare de l'Est, avec un gars qui était dans mon école. Moi, sur le coup, je croyais qu'on allait, je sais pas, faire dérailler un train, ou qu'on allait me donner un pistolet, et que j'allais devoir tirer sur un officier allemand. J'avais aucune idée de ce qu'on allait faire, hein. Et il m'a présenté trois filles au métro qui a de la râpée. Evelyne, Estelle, Fernande. C'est avec elle que j'ai fait le premier lancer de tract. Et on a fait ça dans, je sais pas, une dizaine de stations de métro. C'était les premières actions, voilà. On allait dans les cinémas, on rentrait à la risquille, on s'asseyait dans la salle, puis pendant les actualités allemandes, on criait, on poussait du hurlement, on disait « Tout ça, c'est faux, écoutez la radio anglaise !» Enfin, c'était les premières actions de résistance. Bon. C'était ça, la résistance, à l'époque, c'était ça.